Radio J.
Le 10-11, le 10-11, Lise Goodman.
Radio J.
Dans l'ambiance du jazz israélien avec le merveilleux trompettiste Avishai Cohen pour nous en parler, mais pas que d'Avishai Cohen, eh bien Raphaël Pérez est en studio avec nous. Bonjour Raphaël.
Bonjour Lise.
Alors Raphaël, vous êtes avec nous pour la sortie d'un livre qui va arriver fin janvier ou plus tard. Ça s'intitule Israeli Jazz. Donc c'est un livre bilingue en anglais et en français. Israeli Jazz, on a compris, le jazz israélien avec des portraits des plus grands musiciens de jazz israélien que vous avez rencontrés. Vous allez nous raconter tout ça, mais pas que, c'est The Blend of Blends.
Tout à fait.
C'est-à-dire ?
Tout à fait. Le jazz israélien...
Non, c'est... mais traduisez-nous pour nos
autres. The blend veut dire le mélange des mélanges.
Voilà.
Hein, et quand le mot blend est étudié pour dire, pour parler d'un mélange savamment fait, comme d'un café,
voilà,
ou d'un produit que l'on
un mélange parfumé,
après,
on va
voilà
dire. Voilà.
Et donc, le jazz israélien, c'est un double niveau de mélange qui est l'essence même du jazz, de sourire aux cultures. C'est l'ouverture d'abord de la société israélienne, qui est, je l'écris dans le livre, que très souvent, dans des familles, des enfants ont quatre grands-parents qui viennent de quatre pays différents. Donc, bien évidemment que ça fait de très beaux mélanges. Mais les étudiants israéliens vont en plus, les étudiants en musique israéliens vont étudier aux États-Unis, New York ou Boston essentiellement. Et là, ils se mêlent à la culture du jazz américain et de beaucoup d'étudiants venant d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Et ils en reviennent avec, après 2-3 années passées là-bas, avec un jazz très ouvert à des sources de leurs racines culturelles et des gens qu'ils ont rencontrés. Et c'est très beau.
Pourquoi votre intérêt pour le jazz? Depuis quand existe le projet?
Alors,
livre?
Ouais, le projet de ce livre ou de mon intérêt pour le jazz israélien arrive en 2018, quand en fait, à partir de ma pratique de photographie, je me rends compte, sans l'avoir recherché, avoir rencontré et photographié une trentaine de musiciens israéliens que j'avais pas recherché. Et en demandant à des professionnels de l'industrie de la musique, ils m'ont tous dit que c'est un phénomène très très important pour la richesse de la musique, ce métissage dont j'ai parlé, pour l'impact que ça avait sur l'économie de la musique, en particulier du jazz. J'étais en Israël au mois de novembre, en particulier au festival de jazz d'Eilat.
D'Eilat, oui. Et grand festival renommé.
Très grand festival. Celui de cette année avait en plus la coloration particulière d'être un festival de renaissance après l'interruption de l'an dernier pour les événements que l'on connaît tous. Et la première chose qui est très marquante dans un festival comme cela à Eilat, comme celui en tout cas de cette année, c'est la jeunesse de l'audience.
C'est-à-dire les jeunes Israéliens sont fous de jazz.
Ils sont fous de jazz, ils sont
mais
attirés.
Leurs aînés aussi, hein, je crois.
Alors les aînés, bien sûr, c'est
oui
traditionnel, mais les
c'est
jeunes...
un phénomène de la jeunesse israélienne.
Exactement. Si vous voulez, le succès des premiers Israéliens qui sont hissés au niveau d'être des artistes reconnus mondialement a créé une réelle aspiration pour toute une jeunesse. Comme vous savez, en Israël, si on fait de la high-tech, c'est pour réussir mondialement. Si on fait des séries, c'est pour qu'elles soient sur tous les Netflix du monde. Idem pour la cuisine et idem pour le jazz. Et donc, ces jeunes viennent s'abreuver du savoir-faire. Et puis, ce qui est magnifique, c'est que lorsque l'on va là-bas, ces mêmes artistes, ils parlent à tout le monde, ils tutoient tout le monde, ils sont simples. Alors qu'ici, en Europe, il y a des histoires de sécurité, de protocole, il faut prendre des rendez-vous. J'en ai rencontré 100, donc je sais ce que c'est.
Oui.
Là-bas, il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Ils sont tous au bar du même hôtel tous les soirs. enfin les trois soirs du festival. Et donc on voit l'attrait de la jeunesse pour cette musique et donc le renouvellement continu et l'accroissement de cette population d'artistes qui nous réjouit à tous. Hein.
Bien sûr. Alors ce qu'on vient d'entendre, c'est tiré d'un album qui vient de sortir.
Tout à fait. C'est un album qui est très inspirant.
Et donc je le rappelle, Avishai Cohen, trompettiste.
Voilà,
c'est, je crois, From Ashes to...
From Ashes to Gold.
Voilà,
qui veut dire
descendre
vers l'or.
Vers l'or.
C'est un album qui est sorti le mois dernier chez
donc
ECM.
Qui est post 7 octobre.
Voilà. Et cet album, il y a une histoire que j'aimerais vous raconter. L'an dernier, vous y étiez peut-être, Lise, je sais que vous aimez beaucoup le jazz, pendant le festival Jazz and Klezmer.
Oui.
Qui est tous les ans programmé courant novembre, fin novembre.
Oui.
Avishai Cohen, depuis de nombreux mois, était programmé. Arrive le 7 octobre, pendant un mois, il n'y a plus rien. Il était programmé le 17 novembre, si j'ai bonne mémoire. Et c'était la cata, bien sûr, les organisateurs, il faut que tu viennes, je sais pas. Alors, il y avait à la fois pour les artistes, et je parlais à beaucoup d'entre eux, la volonté, à la fois la sidération que tous les Israéliens ont vécu, en plus des journées où c'était la moitié de la journée dans les abris, donc
je ne
sais pas ça, mais leur contribution à l'évolution du monde, c'est de jouer.
Mais
et
bien
eux,
sûr.
Pour respirer, il faut le contact avec le public.
Oui.
Donc ils étaient balancés, et alors qu'il était en train d'être reconvaincu de venir, la salle où il devait passer, je ne veux même pas citer son nom, décide de déprogrammer le spectacle pour des raisons de sécurité.
Oui. Non, pas seulement de sécurité, mais bon.
Enfin, je dis, c'est comme
décide
ça.
Décide de déprogrammer, on est d'accord.
Exactement. L'équipe de Jan Hans Klezmer se bat et trouve une autre salle. Le groupe d'Avishai Cohen décide de revenir. Depuis 6 mois, il est à l'affiche pour promouvoir son album.
Oui.
Et là, il y a eu probablement le moment le plus émouvant que j'ai connu à écouter de la musique pendant tout ce, probablement pendant toute ma vie, d'ailleurs, au-delà de ce projet. C'est que, Avishai et son quartet commencent le spectacle dans une salle avec beaucoup d'émotions.
Oui.
Post 7 octobre et post reprogrammation dans cette autre salle.
Oui.
Il joue ces deux morceaux et puis il prend la parole en disant merci d'être là, le moment est particulier, on s'est demandé, bon, tout ce que vous imaginez. Et il ajoute, nous avions prévu de venir ici depuis plus d'un an pour promouvoir notre album Naked Truth.
Mmh.
Mais il me paraissait
impossible.
Donc la
vérité toute nue.
Voilà, c'était son album de l'époque.
Oui.
Pour lequel il faisait ses roadshows et autres. Et il dit, mais je pouvais pas venir faire ça comme si de rien n'était. Et toutes les chansons qu'on vous programme ce soir font partie d'un ensemble de travaux que j'ai réalisé dans les abris ces dernières semaines.
Oui, je me souviens.
Et qui donneront lieu à un enregistrement dans les studios du label allemand ECM dans le sud de la France. Et voilà, c'est ça l'album. Le morceau vient de cet album qui est donc chargé de toute cette, non seulement émotion, mais expérience humaine du post 7 octobre où les artistes israéliens. Et ça continue pour beaucoup, ont été coupés de leur public. Et c'est très dur.
Très, très dur. Voilà. Donc, d'où l'importance de votre livre Israeli Jazz qui les remet tous à l'honneur et qui nous les fait connaître. Alors, justement, quand est-ce que cette passion pour le jazz a-t-elle démarré en Israël? Est-ce qu'on sait?
Alors, en Israël, elle a eu deux moments. Premièrement, ou trois moments, je dirais. Le jazz est arrivé avec les troupes britanniques. C'est très marrant parce que c'est exactement la même chose en Europe. Il est arrivé avec les troupes américaines en
17. Mais eux, c'était avant, les troupes britaniques. C'était dans les années 20.
C'était la Première Guerre mondiale en Europe.
Oui,
Le premier concert de jazz en Europe, c'est des soldats noirs américains qu'on n'avait jamais vus à Nantes en avril 17.
Ah,
donc, c'est à peu près pareil.
Vous êtes un puits de sens, de science, Raphaël Pérez.
J'ai beaucoup travaillé pour faire ça.
Oui, et donc, ça s'entend.
Donc il arrive là, mais il est réservé à l'élite des administrateurs du mandat britannique, exactement, et les officiers qui n'écoutaient le jazz dans les messes. Mais quand il y a des choses comme ça, il y a une certaine porosité avec les musiciens locaux
qui étaient
intéressés de savoir que font. D'autant plus que les Britanniques avaient une radio qui s'appelait la PBC, la Palestinian Broadcast Corporation, qui diffusait de la musique, et ils avaient la mentalité des colons. On va amener la culture à ces sauvages.
Oui.
Et donc, il y avait du jazz.
Et il y avait du swing aussi,
il y avait
du jazz.
Bien sûr, oui, il n'y avait pas que du jazz, mais il y avait aussi du jazz et qui a attiré l'attention de certaines personnes qui se sont rapprochées. Puis, il y a eu des orchestres qui passaient des mois où il y a eu des gens malades et qu'on remplaçait par des musiciens locaux. Donc ça a été le début. Ensuite, vous connaissez l'histoire d'Israël, l'indépendance, où on a d'autres soucis que la musique et que la culture.
Oui, largement.
Et où le mouvement sioniste a plutôt comme approche de de créer l'être hébreu nouveau avec une culture
unique.
Et la unique,
culture israélienne
la
nouvelle.
La nouvelle culture israélienne. Et on crée quelque chose qui va beaucoup aider le jazz, qui s'appelle, qu'on appelle un recueil qui s'appelle le Shiré l'Eretz Israël, toutes les chansons chaloutziques qu'on a tous connues, que les étudiants apprennent tous, qu'ils apprennent depuis 46, et donc qui est le creuset commun à tous les jeunes Israéliens, en particulier ceux qui font de la musique.
Bien sûr.
Et c'est ce sur quoi s'est bâti le jazz israélien. Comme aux États-Unis, le jazz s'est bâti sur la folk song américaine.
Oui, exactement.
Il y a eu ce parallélisme. Donc,
Est-ce qu'il n'y a pas eu de phénomène comme cela en France?
Non.
On reçoit les jazzmen, on a des musiciens français, mais il n'y a pas un tel socle aussi solide
exactement.
Comme en Israël ou aux États-Unis.
Pendant mon travail et les nombreuses interviews, je me souviens d'un rendez-vous avec quelqu'un du mouvement, enfin le dirigeant du mouvement sioniste mondial, qui me dit Raphaël, à la fin de l'entretien, il me dit Raphaël, sympa, mais ce sont des Israéliens qui font du jazz ou ce sont des gens qui pratiquent un jazz israélien? Dans la majorité des pays où on fait du jazz partout dans le monde,
sûr.
On a des musiciens qui font du jazz.
Oui.
En Israël, et c'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est le The Blend and Blend, on a une population qui a cette, pour les musiciens en tout cas, cette double culture, celle de leur famille, avec un S, elles viennent souvent de pays différents, et de ce voyage aux États-Unis pour leurs études où ils découvrent le jazz américain, et c'est le mélange de tout ça qui crée une couleur spéciale au jazz israélien. Je vais vous ajouter aussi quelque chose dont j'ai pas encore parlé. J'ai eu le grand honneur que la préface de ce livre ait été écrite par une personnalité importante du monde du jazz en France, qui s'appelle Alex Dutille.
Oui.
Qui a occupé les plateaux de France Musique pendant 37 ans avec une quotidienne qui s'appelait Open Jazz, et à qui j'ai demandé d'écrire la préface. Tout le monde n'accepte pas de faire ça, sans lire ce que j'ai écrit. Ce que je voulais, c'était l'avis d'un spécialiste extérieur sur quel est l'intérêt de parler de cela. Et ben, il dit exactement ça. Il dit que c'est une musique métissée, nouvelle, américano/orientale, et qui amène une variété pour beaucoup de monde qui aime l'écouter, et ceux qui aiment la musique et la culture aiment les additions culturelles, et c'est une vraie addition parce que ça n'existe pas.
On vous écouterait pendant des heures.
Attention, hein.
Alors, c'est
et en fait,
absolument
je termine juste
passionnant.
À disant qu'effectivement, dans la majorité des pays où il y a des jazzmen, ce sont parfois de très 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 bons musiciens, mais qui font du jazz américain sans coloration particulière. Mais bizarrement, par exemple au Japon, en Scandinavie, on a des écoles de jazz hybride entre les cultures locales et en Israël aussi.
On n'a plus qu'à en France, comme on dit.
Voilà,
alors,
ça va venir.
Pour l'instant, l'album, le livre s'appelle Israeli Jazz. Donc, on y trouve l'histoire du jazz en Israël, les acteurs clés dans le développement du jazz israélien, les principales écoles de jazz, le système éducatif, les lieux de jazz et les festivals en Israël. Il y a également des interviews, des points de vue et beaucoup de photos.
Oui, beaucoup de photos. Déjà, pour la première partie, j'ai rencontré 40 personnes qui sont les gens qui sont les patrons du jazz en Israël, avec l'intérêt qu'en Israël, tout le monde se connaît, donc les introductions étaient assez rapides. Et des gens, dans un phénomène qui est temporellement restreint, des gens qui étaient là au tout début des premières écoles, des premiers concerts, des premiers groupes. Et c'était passionnant, aussi bien les gens au ministère qui ont mis en place... En Israël, il y a 120 lycées. En Israël, l'éducation est fondamentale, comme dans notre culture.
Bien sûr.
Moi, j'ai passé ma vie dans la high-tech.
Oui.
C'était pareil. En Israël, aujourd'hui, il y a 120 lycées. En Israël, hein, vous connaissez la taille du pays, où les jeunes lycées, avant l'armée, peuvent apprendre le jazz.
Et donc, tout ça donne
ce que l'on voit aujourd'hui.
Raphaël Pérez, bravo. Qu'est-ce qu'on fait pour se procurer le livre?
Pour se procurer le livre, il faut aller sur le site qui est www.israelijazz.com. Et il est présenté, il y a une vidéo et il y a un bon de commande.
Donc www.israelijazz.com et on pourra le commander aussi dès début février dans les bonnes librairies. Voilà.
Exactement.
Merci beaucoup, bravo. Je sais que vous êtes en train de mettre au point un concert d'ouverture, de présentation, mais on aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. Et moi, je vous propose de terminer comme ça avec quelques notes d'Avishai Cohen, le trompettiste.
Merci beaucoup,
d'avoir été avec nous et quand vous le souhaitez sur Radio J. Au revoir.
Plaisir.